Eh bien, permettez-moi de débuter, bien entendu, en remerciant Stan et tous les professeurs du collège pour l'invitation. C'est toujours pour moi non seulement un honneur, mais c'est surtout un très très grand plaisir d'avoir l'opportunité de présenter mes travaux ici au collège. Alors, il y a quelques années, cette image a fait effectivement la couverture du National Geographic. Je vois des gens qui se tiennent la poitrine. Effectivement, c'est une image absolument magnifique, très forte, et on comprend bien pourquoi ils l'ont choisie pour la couverture. Mais que voyons-nous au juste? Eh bien, ça paraît extrêmement clair. Nous avons un grimpeur qui est perché sur cette petite terrasse qu'on appelle dans le jargon de l'escalade une vire. Il est au milieu d'une face extrêmement vertigineuse, verticale. Et la scène se déroule dans une chaîne de montagnes que certains d'entre vous ont peut-être reconnue, puisque nous sommes au parc national Yosemite aux États-Unis, en Californie. Donc l'impression générale qui se dégage avec cette image, c'est qu'on n'a aucun problème à l'interpréter et à la décrire. Et ce n'est pas spécifique à cette image. Quand vous regardez autour de vous, vous n'avez aucun problème à interpréter les gens qui vous entourent et la scène qui vous entoure. Et donc, on a l'impression que la perception en général est extrêmement fiable, dénuée de toute ambiguïté. Et pourtant, la raison pour laquelle j'ai choisi cette image, c'est pour vous démontrer exactement l'inverse. À savoir que dans une image comme celle-ci, le doute est omniprésent. Il est omniprésent en ce sens que, pratiquement, quelles que soient les questions qu'on va se poser sur une image comme celle-ci, on va être incapable d'y répondre avec précision. Donc, par exemple, prenons le point de vue de ce grimpeur. Pour ce grimpeur, je peux vous garantir que la première question qui s'est posée, c'est quelle est la largeur de la vire? Ce n'est pas effectivement la même chose si la vire fait 2 mètres ou si elle fait 5 cm. Alors, quelle est cette largeur? Eh bien, sur la base de cette image, c'est impossible de répondre à cette question de manière précise. Mais en même temps, on peut y répondre de manière approximative. Donc vous conviendrez avec moi que cette vire ne fait pas 2 mètres de large, de même qu'elle ne fait pas 5 cm. Je dirais qu'elle fait à peu près 30 cm, plus ou moins 10 cm. Ce qu'on vient de faire ici, c'est quelque chose d'à la fois très simple et très compliqué. C'est ce qu'on appelle l'inférence statistique. Sur la base d'une observation incomplète, qui est cette image, nous avons déduit de la connaissance sur la variable qui nous intéresse, qui est la largeur de la vire, sous forme d'une distribution de probabilité dont la moyenne est 30 cm et l'incertitude, la déviation standard, est plus ou moins 10 cm. Et ce qu'on a fait ici pour la largeur de la vire, on peut le faire pour toutes sortes de variables. Une autre question que ce grimpeur s'est forcément posée, c'est quel est le degré de friction du rocher le long de cette vire? Là aussi, impossible de le savoir. En même temps, on peut néanmoins y apporter une réponse approximative. Si vous regardez l'image, il est clair que le rocher est sec, donc il sera un peu plus adhérent. D'autre part, si vous le regardez, vous verrez qu'il y a un tout petit peu de texture, c'est un granit qui est un petit peu granuleux. Donc, on peut en conclure que ça sera probablement peu glissant. Et vous voyez que dès le départ, j'utilise, une fois de plus, des mots qui font référence aux probabilités. On ne peut pas être sûr exactement du degré de friction, mais on peut avoir une idée approximative. Troisième question fondamentale pour ce grimpeur, c'est l'angle de cette paroi qui est derrière lui. Si la paroi est en dévers, ça va être nettement plus compliqué de traverser que si elle est penchée de l'autre côté. Bien, l'angle, en regardant ça, une fois de plus, on ne sait pas ce qu'il est, mais il est probablement de l'ordre de 5 degrés, penché du bon côté, avec une incertitude de plus ou moins 5 degrés. Donc ce que vous voyez ici, c'est que dans ces trois exemples, il était très naturel de représenter notre connaissance de ces variables sous forme de distribution de probabilité. Et ça va être l'idée centrale de cette présentation. L'idée que la connaissance humaine prend la forme de distribution de probabilité et que le raisonnement, la perception, sont des formes de raisonnement probabiliste. Alors c'est une idée qui n'est pas véritablement nouvelle, vous allez la retrouver chez de nombreux philosophes, chez des mathématiciens, mais elle a été exprimée de manière particulièrement claire par Pierre-Simon de Laplace dans un livre qui va publier à la fin du XVIIIe siècle, qui s'intitule « La théorie analytique des probabilités ». Alors ce n'est pas du Zola, vous pouvez imaginer, avec un titre comme ça, pas du Houellebecq non plus, mais c'est la naissance de la théorie des probabilités modernes. Et dans ce livre, dans la troisième édition, il va écrire un essai philosophique d'une cinquantaine de pages dans lequel il spécule sur les implications de la théorie des probabilités au-delà des mathématiques. Et dès la première page, il exprime de manière très claire son point de vue sur la connaissance humaine. Et il dit la chose suivante. On peut même dire, à parler en rigueur, que presque toutes nos connaissances ne sont que probables. Et dans le petit nombre des choses que nous pouvons savoir avec certitude dans les sciences mathématiques elles-mêmes, les principaux moyens de parvenir à la vérité L'induction et l'analogie se fondent sur les probabilités, en sorte que le système entier des connaissances humaines se rattache à la théorie exposée dans cet essai. Ça, c'est exactement le point de départ de la recherche dans mon laboratoire. Ce que nous cherchons à faire depuis une quinzaine d'années, c'est de comprendre en fait les mécanismes neuronaux de ces raisonnements probabilistes, de cette connaissance probabiliste. Alors, un des attraits fondamentaux de cette approche, c'est sa généralité. On peut prendre cette approche pour penser ou pour formaliser pratiquement n'importe quel problème qui est résolu par le cerveau. Par exemple, il y a quelques années, nous avons travaillé sur la navigation. Alors, la navigation, vous pouvez penser que c'est un problème relativement simple. Ça consiste à représenter sa position dans l'espace et à la mettre à jour au fur et à mesure où vous déplacez dans l'espace. Mais en fait, on peut l'approcher de manière probabiliste, auquel cas le but va être de représenter une distribution de probabilité sur votre position dans l'espace et de mettre à jour cette distribution de probabilité quand vous vous déplacez. Alors ça paraît une différence subtile, mais ça permet d'être beaucoup plus robuste, et c'est en fait ce qui est utilisé de nos jours dans les systèmes tels que votre GPS sur votre iPhone. Quand vous allumez votre iPhone et que vous appuyez sur Google Maps, vous avez peut-être remarqué qu'en fait Google Maps ne vous dit pas où est-ce que vous êtes, il vous donne la position la plus probable, et malheureusement avec le contraste on a un peu de mal à voir, mais il y a un cercle autour de cette position qui vous indique en fait l'incertitude sur votre position. Et quand vous déplacez, cette distribution de probabilité va être mise à jour. Et à ma connaissance, tous les systèmes de navigation modernes s'appuient en fait sur cette idée d'avoir une distribution de probabilité qu'on met à jour au fur et à mesure où on a de nouvelles mesures. On peut aussi repenser ou étudier l'intégration multisensorielle. Alors, l'intégration multisensorielle, c'est quelque chose que vous faites en permanence sans même vous en apercevoir. Là, à cet instant, quand vous m'écoutez, vous faites de l'intégration multisensorielle. Vous analysez ce que je dis, mais en même temps, pour ceux d'entre vous qui me regardent, vous analysez le mouvement de mes lèvres. Et c'est en combinant ces deux sources d'informations que vous interprétez ce que je dis. Et vous allez voir dans la suite de ma présentation comment on peut en fait formaliser ce problème du point de vue de l'inférence statistique. Nous avons aussi travaillé sur la perception olfactive, sur la localisation auditive, sur le contrôle moteur, sur la prise de décision. Dans le cas de la prise de décision, il y a à peu près 2 siècles d'histoire qui s'appuient sur les probabilités pour penser à la manière dont les êtres humains font des décisions. Et donc, dernièrement, on a pu commencer à se pencher sur les mécanismes neuronaux de ces décisions probabilistes. On a aussi travaillé sur des problèmes qui sont peut-être un petit peu plus cognitifs, comme la recherche visuelle ou l'arithmétique. Alors, l'arithmétique, ici, je fais référence à notre capacité de percevoir très rapidement la numérosité dans un ensemble d'objets de manière analogue, un sujet sur lequel Stan pourrait en dire très long. D'ailleurs, je crois savoir que dans 2 heures, il fait une conférence à Saint-Sulpice sur ce sujet, auquel vous êtes tous invités, et qui montre qu'effectivement, on est capable de percevoir les chiffres très rapidement et de les additionner de manière très intuitive. Et donc avec cette approche, l'idée serait que quand on voit un ensemble d'objets, on n'estime pas le nombre d'objets dans l'ensemble, on estime une distribution de probabilité sur la numérosité. Et du coup, quand on fait une addition, on ne fait pas véritablement une addition, on fait une inférence statistique. On essaye d'en déduire quelle est la valeur la plus probable de l'addition, étant donné l'incertitude des 2 chiffres que vous cherchez à additionner. Et enfin, on peut aussi repenser au problème d'apprentissage et d'apprentissage synaptique avec cette approche probabiliste, et j'en dirai aussi quelques mots dans quelques minutes. Donc on a travaillé sur tous ces sujets, je n'ai pas le temps de vous dire exactement ce que nous avons fait dans tous ces domaines, je vais me concentrer sur 3 d'entre eux, l'intégration multisensorielle, la prise de décision et l'apprentissage. Alors avant de parler de calcul, il va falloir que nous parlions de code. Vous savez sans doute que dans un ordinateur, toute l'information est codée sous forme de 0 et de 1, c'est le code binaire. Mais qu'en est-il dans le cerveau ? Comment est-ce que le cerveau représente l'information, et en particulier, comment est-ce que le cerveau représente les distributions de probabilité? C'est une question fondamentale, parce que si vous vous intéressez au calcul, il faut d'abord comprendre comment l'information est représentée. Il y a un lien très fort entre calcul et représentation. Et pour illustrer ça, considérez par exemple le problème de l'addition. L'addition, c'est une opération donnée. Mais l'algorithme qu'il faut implémenter pour faire une addition dépend de la manière dont vous représentez les chiffres. Par exemple, si vous représentez vos nombres avec des chiffres arabes, vous connaissez tous la procédure pour faire une addition. Vous démarrez avec la colonne de droite, vous additionnez les 2 chiffres, vous reportez le résultat en bas. S'il y a une retenue, vous la reportez sur la colonne d'après, vous additionnez les chiffres, et ainsi de suite. Si maintenant, vous faites la même opération, mais avec des chiffres romains, cet algorithme que je viens de vous décrire, qui consiste d'aller en colonne, ne marche plus. Il y a un algorithme pour additionner les chiffres romains, mais il est extrêmement compliqué, et c'est une des raisons pour lesquelles on a fini par adopter les chiffres arabes. Donc vous voyez qu'une opération donnée, l'addition, va requérir des algorithmes différents selon la manière dont on représente les chiffres. Alors, une fois de plus, qu'en est-il pour le cerveau ? Alors, dans le cerveau, tout le codage démarre avec des potentiels d'action. Les potentiels d'action, vous le savez sans doute, ce sont des impulsions électriques très courtes de l'ordre du milliseconde qui permettent aux neurones de communiquer les uns avec les autres. Si on met une électrode, par exemple, dans cette aire qui s'appelle l'aire MT, qui est vers l'arrière de votre cerveau, dans cette aire, pratiquement tous les neurones sont sensibles au mouvement sur l'image visuelle. Donc si vous mettez une électrode et que vous isolez un neurone, et que vous présentez une barre comme celle-ci qui se déplace sur l'écran, dans la mesure où la barre rentre dans ce qu'on appelle le champ récepteur du neurone, donc la partie du champ visuel qui va déclencher une réponse du neurone, vous obtenez ce qu'on appelle un train de potentiel d'action, où les lignes verticales ici indiquent les potentiels d'action. Et si on répète cette expérience plusieurs fois, on obtient à chaque fois une réponse qui va varier, en particulier la séquence temporelle des potentiels d'action va changer, le nombre des potentiels d'action va changer, mais on peut caractériser cette réponse, par exemple, en calculant le nombre de potentiels d'action moyens qui a été déclenché par ce mouvement. Ensuite, la deuxième étape pour caractériser la réponse des neurones consiste à changer de manière systématique la direction de la barre. Et pour chaque direction de la barre, nous allons noter le nombre de potentiels d'action moyens qu'on obtient en réponse, ce qui nous conduit à faire un graphe de ce type-là, où nous avons l'activité du neurone, donc le nombre de spikes, le nombre de potentiels d'action, en fonction de la direction de la barre. Et pour un neurone dans MT, on obtient ces courbes, ce qu'on appelle des courbes de sélectivité, qui sont très typiques, dans lesquelles le neurone répond de manière maximale à une direction donnée, et la réponse décroît au fur et à mesure où la direction s'écarte de la direction préférée. Si maintenant vous bougez votre électrode et que vous enregistrez un second neurone dans MT, vous allez obtenir des courbes de sélectivité très similaires. La différence principale sera la position de la direction préférée. De telle sorte qu'au niveau de la population, toutes les directions sont représentées. Maintenant, imaginez que vous puissiez enregistrer l'activité de tous ces neurones en même temps. Ce qui aujourd'hui est techniquement possible, en mettant tout un ensemble d'électrodes dans l'aire de MT, on peut enregistrer une grande partie des neurones qu'ils ont dans cette aire. Et imaginons qu'on bouge sur l'écran la barre dans une direction donnée. Le mouvement de cette barre va déclencher une réponse sur cette population. Et étant donné les courbes de sélectivité que je vous ai montrées, si vous ordonnez vos neurones en fonction de leur direction préférée, vous allez obtenir une colline d'activité qui correspond en fait qu'effectivement les neurones dont la direction préférée est proche de la direction dans l'image répondent, et ceux qui sont loin de cette direction préférée répondent à peine. Une fois que vous avez cette colline d'activité, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Et une des questions qui domine aujourd'hui la littérature, c'est de savoir si on peut décoder ce vecteur d'activité R. Alors, ça a des applications énormes en clinique aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de domaine qui s'appelle le Brain-Machine Interface, où là, on met des électrodes en général dans le cortex moteur. On essaye, sur la base de l'activité neuronale observée, de comprendre quelle est l'intention motrice du patient, qu'on peut ensuite rediriger vers un robot qui va effectivement effectuer les actions qui sont souhaitées par le patient. Alors là, on n'est pas dans le cortex moteur, on est dans le cortex plutôt perceptuel. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est sur la base de l'activité de ces neurones, d'essayer de deviner qu'est-ce qui est perçu, quelle est la direction du mouvement perçu par l'animal. Donc, on cherche véritablement à lire l'esprit de l'animal. Donc, il y a toute une industrie qui s'est développée ces derniers temps sur des décodeurs qui permettent effectivement de prendre cette activité et d'en déduire une estimation, dans ce cas particulier, de la direction du mouvement. Donc dans ce cas particulier, peut-être que ce décodeur va nous donner, disons, moins 46 degrés, puisque vous voyez qu'effectivement, le pic d'activité se situe à peu près entre moins 100 et 0. Mais le problème avec cette approche est le suivant. Souvenez-vous que quand on présente la même barre plusieurs fois à un neurone, avec exactement le même mouvement, on obtient des réponses différentes. Donc au niveau de la population, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que vous présentez la barre, vous allez obtenir une activité de population différente. Donc le premier essai sera peut-être ça, au deuxième essai ça, et ainsi de suite. Donc si à chaque fois que vous présentez une barre, vous avez une activité de population qui est différente, ça veut dire que pour une activité de population donnée, il est impossible de connaître exactement la direction du mouvement de la barre. En fait, c'est exactement comme l'image du grimpeur. Sur la base de l'image, on ne peut pas savoir exactement quelle est la largeur de la terrasse. Et bien là, c'est pareil, sur la base de cette activité, vous ne pouvez pas savoir exactement quelle est la direction du mouvement. Le mieux que vous puissiez faire, c'est en fait d'inférer une distribution de probabilité sur la direction, étant donné la réponse des neurones. Cette idée, c'est une idée qu'on a développée en fait en collaboration avec Wei Jima, Jeff Beck et Peter Latham. Et ce que nous avons remarqué, c'est qu'en fait, pour transformer l'activité neuronale en distribution de probabilité, ce qu'il nous faut, c'est un décodeur. Un décodeur dit bayésien. C'est-à-dire un décodeur qui s'appuie sur la règle de Bayes, la règle de Bayes qui nous dit que la probabilité de la direction étonnée de la réponse est proportionnelle à la probabilité de la réponse étonnée de la direction. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec ce genre d'équation, vous n'avez peut-être pas tout de suite remarqué quel était l'avantage d'avoir inversé ces deux variables. On a donc la probabilité de la direction étonnée de la réponse, et là nous avons juste inversé R et D. Et pourtant, ça fait une énorme différence, parce que P de R étonnée de D, c'est quelque chose qu'on peut mesurer dans le laboratoire. C'est ce qu'on appelle la variabilité neuronale pour une direction constante. En fait, c'est précisément ce que nous avons mesuré avec cette expérience que je vous ai décrite tout à l'heure. On monte la même barre sur plusieurs essais, donc on garde la direction constante, et on regarde quelles sont les statistiques de réponse ici. Et dans ce cas particulier, les statistiques en termes de nombre de potentiels d'action. Donc c'est une expérience qu'on peut faire dans le laboratoire, qui a été faite effectivement par littéralement des centaines de laboratoires aujourd'hui. Et en regardant la littérature, en revoyant cette littérature, on s'est aperçu que pour certaines variables, dans certaines aires corticales, cette variabilité est décrite par cette équation. En tout cas, ça donne une approximation assez proche de ce qu'on voit expérimentalement. Alors, par exemple, c'est vrai pour le code pour l'orientation des contours visuels dans le cortex primaire. Ça marche pour l'identité des objets dans le cortex temporel. Ça marche pour la direction de la saccade, des mouvements de saccade dans le cortex pariétal, ou encore pour le mouvement de la main dans le cortex moteur. Alors, cette équation a plusieurs avantages. La première chose, c'est que si je vous donne une activité de population, je peux rentrer tous ces chiffres dans cette équation et je retrouve la distribution de probabilité. Donc, ça nous dit quelle est la nature du code, la nature de la transformation entre ces deux représentations. Ça nous dit d'ailleurs précisément quelle est la nature de ce code. Je peux vous dire qu'en regardant cette équation, ce que ça indique, c'est que le log de la probabilité est représenté en une combinaison linéaire de fonctions de base H qui sont pondérées par l'activité des neurones. Alors évidemment, pour les non-mathématiciens dans la salle, ça ne vous dit pas grand-chose, mais c'est important parce qu'on connaît exactement la nature du code. Et ce code, il a une propriété que je voudrais souligner qui va être importante par la suite. Cette propriété, c'est la suivante. C'est que le gain ou l'amplitude de la colline d'activité est relié à l'incertitude ou la variance de la distribution de probabilité qui est codée. Et cette relation, c'est une relation d'inverse. Plus le gain est fort, plus la variance sera petite. Donc si je diminue le gain, la variance va augmenter. Ça paraît relativement logique. Plus un neurone répond, et moins on sera incertain de la valeur de la variable qui est codée par ces neurones. Donc la relation, c'est que le gain est inversement proportionnel à la variance. Donc maintenant, nous avons le premier élément en main, c'est quelle est la nature du code neuronal pour les distributions de probabilité, et nous allons explorer ce code en particulier. Donc nous pouvons maintenant se pencher sur un calcul particulier, nous allons regarder l'intégration multisensorielle, et en particulier l'intégration visio-vestibulaire. Il se trouve que quand vous bougez dans l'espace, vous êtes capable de dire dans quelle direction vous dirigez, et ça s'appuie sur la combinaison de deux types d'informations. La première, c'est votre système vestibulaire. Donc dès que vous bougez, vous activez dans votre oreille interne le système vestibulaire qui vous renseigne sur les accélérations et donc sur la direction de votre mouvement. D'autre part, en bougeant, vous déclenchez sur votre rétine un mouvement très particulier, un mouvement d'expansion qui lui aussi vous renseigne sur votre direction dans l'espace. Et là, en collaboration avec Chris Fetch, Greg DeAngelis et Dora Angelaki, nous avons étudié ce processus d'intégration à la fois chez le singe et chez l'humain. Nous avons fait ça avec cet appareil qui est ce qu'on appelle une plateforme vestibulaire qui permet de bouger physiquement les gens dans l'espace dans n'importe quelle direction. Et en même temps qu'on bouge la personne, donc qu'on active le système vestibulaire, on va présenter sur l'écran un mouvement particulier qui correspond à un mouvement vers l'avant. En fait, la vidéo pour ça, elle précède peut-être là. Il y a pas mal de bruit au début, mais vous allez très vite comprendre. Au fur et à mesure, le bruit diminue. Vous voyez que là, on a vraiment une sensation de bouger dans l'espace. C'est un peu comme ce qu'on voit dans les films de science-fiction quand le vaisseau spatial accélère. Et sur la base de ça, vous pouvez en fait déterminer dans quelle direction vous allez. Alors, la tâche du sujet dans une expérience comme ça, c'est de vous dire dans quelle direction il bouge. Et pour faire cette tâche, on peut imaginer différents mécanismes. Par exemple, imaginons une solution qui soit non probabiliste. Ce qui va se passer, c'est que sur la base de l'analyse de l'image, nous allons extraire une estimation de la direction dans l'espace. On va faire la même chose avec les signaux vestibulaires. Et là, maintenant, nous avons le problème d'avoir à combiner ces deux sources d'informations. En l'absence d'autres informations, le plus simple, ça serait tout simplement de prendre la moyenne de ces deux signaux. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que, par exemple, si sur cet essai donné, vous étiez dans le noir complet, en fait, l'information visuelle n'a aucune valeur. C'est juste du bruit. Et en prenant la moyenne ici, vous avez pris une mesure, la mesure vestibulaire, qui est parfaitement bonne, et vous l'avez corrompue avec du bruit. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un espèce de moyen-âge, mais un moyen-âge qui prend en compte la fiabilité des signaux. Et bien ça, c'est exactement ce que va faire l'approche probabiliste. Dans une approche probabiliste, je ne sais pas pourquoi il manque la moitié de mon titre, on va calculer sur la base de l'image une distribution de probabilité sur la direction dans l'espace. Exactement comme avec l'image du grimpeur, nous avons pris une image et nous avons calculé une distribution de probabilité sur la largeur de la vire. Et on va faire la même chose avec les signaux vestibulaires. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est combiner ces deux distributions pour obtenir une troisième distribution qui va être la distribution sur la direction, étant donné le visuel et le vestibulaire. Et dans ce cas particulier, comme ce sont deux sources d'informations indépendantes, il se trouve que la probabilité sur la direction visio-vestibulaire est en fait le produit de la distribution visuelle avec la distribution vestibulaire. Donc c'est relativement simple. Et la distribution qui en résulte a des propriétés particulièrement intéressantes. La première, c'est que vous voyez que le pic de cette distribution se situe entre le pic vestibulaire et le pic visuel. Donc il s'agit effectivement d'un compromis. Mais ce compromis est plus proche du vestibulaire que du visuel. Et dans ce cas particulier, dans l'exemple que j'illustre ici, ça a un sens parce que vous voyez que la distribution vestibulaire est plus étroite que la visuelle, ce qui indique que le vestibulaire sur cet essai est plus fiable que le visuel. Et comme il est plus fiable, eh bien le compromis favorise le vestibulaire. Donc, première propriété importante. Deuxième propriété, vous pouvez voir que la largeur, c'est-à-dire l'incertitude de cette distribution visio-vestibulaire, est plus petite que l'incertitude vestibulaire ou l'incertitude visuelle. En d'autres termes, en faisant de l'intégration, nous avons réussi à réduire notre incertitude. Effectivement, quand toutes les distributions sont gaussiennes, on peut dériver la moyenne et la variance de cette distribution sur la base des distributions visuelles et vestibulaires. Et en particulier, je voudrais que vous reteniez juste cette équation ici, qui nous dit qu'en fait, l'inverse de la variance visio-vestibulaire est la somme des inverses des variances visuelles et vestibulaires. Ça peut paraître un petit peu obscur, mais en fait, si vous pensez aux variances, aux inverses de variances comme de l'information, ça a tout de suite du sens. En effet, plus votre variance est grande, plus vous êtes incertain d'une variable, moins vous avez d'informations. Plus votre variance est petite, et plus vous aurez d'informations. Donc l'inverse ici, c'est en fait une information. Et ce que vous dit cette équation, c'est que l'information visio-vestibulaire est la somme de l'information visuelle et de l'information vestibulaire. C'est le mieux que vous puissiez faire, en fait. Quand vous avez deux sources d'information, au mieux, vous allez retrouver la somme de l'information. Donc cette fois-ci, on a tous les éléments en main. On a un calcul, qui dans ce cas particulier est un produit de probabilité, et nous avons un code. On peut donc maintenant se pencher sur les mécanismes neuronaux de l'intégration visio-vestibulaire. Nous allons donc démarrer avec un réseau qui a en entrée une activité de population qui code la direction basée sur la vision, qui code donc une distribution de probabilité. On a la même chose pour le vestibulaire. Et la question qui va se poser, c'est comment combine-t-on ces deux activités de population pour en obtenir une troisième qui elle-même va coder une distribution de probabilité. Mais la question, c'est de savoir quelle est l'opération ici qui est telle qu'à la fin, la distribution de sortie ici est le produit des deux distributions d'entrée. Il s'avère que la solution est extrêmement simple. C'est tout simplement une addition. Et c'est une addition terme par terme. C'est-à-dire que l'activité du neurone qui est le plus à gauche ici est la somme du neurone visuel le plus à gauche et du neurone vestibulaire le plus à gauche. Et ensuite, pour chaque neurone, on prend comme ça la somme d'un neurone vestibulaire et d'un neurone visuel. Et ça marche à cause de ce code particulier dont je vous ai parlé, qui est tel que le gain est inversement proportionnel à la variance. C'est vrai pour le visuel, c'est vrai pour le vestibulaire, et c'est vrai en sortie. Mais le gain en sortie, puisque nous avons juste pris une somme, c'est simplement la somme des gains, G1 plus G2. Et comme G1 est l'inverse de la variance, et que G2 est aussi l'inverse de la variance vestibulaire, on obtient cette relation qui nous dit qu'en fait, l'inverse de la variance en sortie est la somme des inverses des variances en entrée. Et donc ça, c'est la signature d'un système qui fait de l'intégration probabiliste optimale. Ce que je vous ai dit jusqu'ici, ce n'est valable que dans la mesure où le code suit effectivement ces équations. Et j'ai souligné que ce code n'est valide que pour certaines variables dans certaines aires. Il n'est pas valide partout. Mais si vous travaillez sur une variable ou sur une aire corticale où ce code n'est pas valide, on peut néanmoins suivre la même approche. En fait, notre approche, notre théorie, c'est véritablement une recommandation sur deux étapes à suivre. La première, c'est qu'il faut d'abord mesurer la variabilité neuronale. Donc il faut essayer de caractériser expérimentalement cette fonction P de R étant donné D. Et la deuxième, c'est qu'une fois que vous avez caractérisé le code, vous pouvez en déduire l'implémentation neuronale pour une opération probabiliste donnée. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'un produit de probabilité, mais on peut suivre une démarche similaire pour d'autres types d'inférences, comme par exemple l'inférence de maximum de vraisemblance ou la marginalisation, qui est beaucoup utilisée en statistique. Donc maintenant, pour revenir à l'implémentation de l'intégration multisensorielle au niveau neuronal. Avec Chris, Greg et Dora, nous avons enregistré l'activité de neurones chez des singes qui sont en train de faire cette tâche d'intégration multisensorielle pour voir quelle est la nature du code. Et la première chose que nous avons dû faire, c'est ce que je vous ai dit, c'est de caractériser d'abord la variabilité neuronale. Et il se trouve que dans l'aire dans laquelle nous avons enregistré, qui s'appelle MSTD, les neurones répondent avec des statistiques qui sont légèrement différentes de celles que je vous ai montrées avant. L'équation est montrée ici. Elle est un peu plus compliquée. Et la conséquence, c'est que la prédiction que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est-à-dire que les neurones visio-vestibulaires devraient prendre la somme de leur activité visuelle plus vestibulaire, doit être modifiée très légèrement. En fait, maintenant, la solution optimale, c'est tout simplement de prendre une somme pondérée. Et cette somme pondérée, les coefficients A et B, dépendent de chaque neurone. Mais notre théorie nous permet de prédire à l'avance exactement ce que doivent être ces coefficients A et B pour chaque neurone. Donc ce que nous avons fait, c'est de calculer pour tous les neurones que nous avons enregistrés quels doivent être ces coefficients A et B, et en particulier leur rapport, et nous avons comparé aux coefficients que nous avons vus expérimentalement. Ça nous a conduit au graphe suivant, où vous avez effectivement les rapports mesurés expérimentalement de ces coefficients A et B en fonction des rapports calculés avec notre théorie. Chaque point ici est un neurone dans une condition particulière. Et si notre théorie est correcte, les données devraient s'aligner le long de la diagonale ici. Et vous voyez que c'est à peu près le cas. Il n'y a pas besoin qu'ils soient exactement sur la diagonale, dans la mesure où il y a un neurone par-dessus et un neurone par-dessous, ça s'équilibre. Mais on n'est pas exactement sur la diagonale, même en moyenne. Si vous faites de la régression sur un graphe comme ça, vous obtenez une ligne qui dévie de la diagonale dans ce sens-là. Ce qui est intéressant avec cette régression ici, c'est qu'elle indique que l'animal n'est pas optimal. Il se trouve que si vous testez des humains sur cette tâche, ils sont optimaux. Mais d'après ce graphe, les animaux ne devraient pas être optimaux. Et plus précisément, si vous analysez la direction de cette déviation, elle nous dit que les animaux font trop confiance au vestibulaire. Ils pensent que le vestibulaire est plus fiable qu'il ne l'est. Alors ça nous a un peu perturbés parce que les expériences comportementales qu'on faisait en même temps que les enregistrements semblaient indiquer que les animaux étaient proches de l'optimalité. Mais après avoir vu ces résultats, on a réexaminé ces résultats et on s'est aperçu qu'effectivement, les animaux, les singes, les deux singes que nous avons testés, avaient tendance à faire un tout petit peu trop confiance au vestibulaire. Donc évidemment, c'est un résultat particulièrement encourageant pour nous qui semble confirmer notre théorie, qui nous a permis même de déceler au niveau cellulaire, au niveau neuronal, un biais comportemental qu'on avait raté quand on avait fait la première analyse. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la prise de décision. Alors, la prise de décision, a priori, c'est un problème très différent de celui qu'on vient d'étudier, mais vous allez voir qu'exactement les mêmes principes sont en jeu pour la prise de décision. Et quand je dis prise de décision, je vais vous parler de prise de décision, ce qu'on appelle prise de décision perceptuelle, qui est peut-être la forme la plus simple de prise de décision. Donc, ce sont des expériences dans lesquelles, souvent, les sujets sont présentés avec un ensemble de points, comme celui-là, par exemple, et la tâche du sujet est de déterminer si les points bougent en moyenne vers la droite ou vers la gauche. Donc là, c'est normalement particulièrement simple, si je me souviens bien. les points bougent vers la droite. Et pour une tâche comme ça, il va falloir utiliser en fait une méthode très similaire à celle que je vous ai indiquée pour l'intégration multisensorielle. Pour l'intégration multisensorielle, on a fait de l'intégration entre modalités. Dans le cas de la direction du mouvement, dans le cas de la prise de décision, nous allons faire de l'intégration au cours du temps. Imaginez de discrétiser le temps en espace de temps de l'ordre de 100 millisecondes. À chaque fois que vous avez 100 millisecondes de ce film, les neurones dans l'air MT qui répondent au mouvement vont répondre. Donc toutes les 100 millisecondes, dans l'air MT, on obtient une activité de population. Ça, c'est la première, la deuxième, la troisième. Chacune d'entre elles code une distribution de probabilité sur la direction du mouvement. La question qui va se poser, c'est comment intégrer cette information au cours du temps de telle manière que l'activité de population qui en résulte code une distribution de probabilité qui est égale au produit de ces distributions de probabilité. C'est exactement le même problème qu'avant. Sauf que maintenant, on fait l'intégration au cours du temps. Et dans la mesure où le code suit cette équation, et dans le cas du mouvement dans l'RNT, cette hypothèse est validée. Alors la solution est simple, c'est de nouveau une somme. Mais c'est une somme au cours du temps. Donc ça veut dire que si on suit l'activité dans cette couche de sortie ici, au fur et à mesure qu'on joue le film, eh bien l'activité ici, en sortie, va s'accroître. En particulier, si vous enregistrez le neurone qui est au sommet de cette colline d'activité, vous voyez que cette activité croît au cours du temps. Donc la prédiction, dans ce cas particulier, expérimental, ça serait que si vous enregistrez un neurone qui fait de l'intégration temporelle, son activité au cours du temps doit s'accroître de manière linéaire. Et la pente de cet accroissement doit dépendre de la qualité des données sur l'écran. Plus le mouvement est facile à voir, plus l'accroissement doit être rapide. Donc là, vous avez plusieurs courbes, et au fur et à mesure de ces courbes, en fait, on accroît le bruit dans l'image. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le laboratoire de Mike Shadlon, quelques années avant notre théorie, avait déjà montré qu'effectivement, dans l'air LIP, dont on pense qu'elle reflète ce phénomène d'intégration, l'activité des neurones, effectivement, croît au cours du temps, c'est l'activité en fait de population, croît au cours du temps de manière à peu près linéaire, et la pente de cet accroissement dépend effectivement du bruit qui est présent dans l'image. Ça nous a conduit à publier ce papier 6 ans après en fait, la publication des données expérimentales, en collaboration avec Mike Shadlon, parce que ces travaux théoriques en fait, indiquent que ce qui se passe dans l'LIP, c'est que l'LIP est effectivement en train de prendre le produit de distribution de probabilité au cours du temps. Maintenant, je voudrais parler un peu de l'apprentissage. Alors, l'apprentissage synaptique, c'est aujourd'hui vraiment la théorie qui domine les théories d'apprentissage en neurosciences. Et dans ce cas particulier, je vais vous parler d'une théorie qu'on a mise au point avec Lawrence Hutchinson et Peter Layton. Vous savez sans doute que les neurones communiquent les uns avec les autres au niveau des synapses, et que les synapses sont caractérisées par ce qu'on appelle un poids synaptique. Le poids synaptique, c'est une quantification de l'influence de la connexion présynaptique sur la cellule postsynaptique. Plus ce chiffre, plus ce nombre est grand, plus l'activité présynaptique va influencer l'activité postsynaptique. C'est le principe qui est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui les deep learning networks, ou les réseaux de neurones artificiels. Dans les réseaux de neurones, vous avez des unités qui sont connectées les unes et d'autres avec des poids synaptiques. Et ces réseaux, on peut les entraîner à faire toutes sortes de tâches. Pas plus tard que la semaine dernière, un système qui est composé, entre autres choses, d'un réseau de neurones a battu le champion du monde au jeu de Go. Il avait déjà battu, il y a un an, ça avait fait la couverture de la presse, il avait battu un des meilleurs joueurs du monde, mais la semaine dernière, cette fois-ci, ils ont battu le champion du monde. Et ces réseaux, on peut les entraîner de manière très simple, en leur présentant des entrées-sorties, et en modifiant les poids pour essayer d'optimiser la performance du réseau. Donc par exemple, le réseau que je vous montre ici, il fait de la reconnaissance de visage. C'est-à-dire qu'on peut présenter des visages en entrée, et en sortie, vous avez l'identité de la personne qui apparaît sur l'image. Et la manière dont se fait l'entraînement, c'est en présentant une image, et en même temps, l'identité de la personne qui est sur l'image, et on modifie les poids petit à petit pour que, à chaque fois que cette image est présentée, la probabilité d'avoir l'identité correcte augmente. Donc ça, c'est vraiment le cadre général de l'apprentissage aujourd'hui. Les synapses sont des poids synaptiques et ces poids synaptiques sont modifiés par l'apprentissage. Mais quand vous faites de l'apprentissage, la base de données que vous allez utiliser, donc dans ce cas particulier des images avec des identités, sera forcément finie. Si elle est finie, ce que ça vous dit, c'est qu'il est impossible de connaître les poids synaptiques avec précision. Une fois de plus, le mieux que vous puissiez faire, c'est d'avoir une distribution de probabilité sur les poids. Et donc nous avons décidé d'explorer cette hypothèse qui serait que la synapse code en fait une distribution de probabilité, c'est-à-dire qu'elle a non seulement une moyenne, mais elle représente aussi l'incertitude autour du poids. Et si cette hypothèse est correcte, elle conduit immédiatement à une prédiction expérimentale. Cette prédiction, c'est la suivante. Plus la synapse est incertaine, plus elle devrait apprendre. En effet, si vous êtes en train d'apprendre et que vous êtes en début d'apprentissage, et que vous n'êtes pas réellement sûr de la distribution des poids, à chaque fois que vous avez un exemple, il va falloir modifier les poids au maximum et réduire leur incertitude. Par contre, si ça fait déjà un moment que vous apprenez, et que vous êtes à peu près sûr de la valeur de vos poids, à chaque fois que vous avez un exemple, eh bien là, ce n'est pas la peine de faire des grosses modifications. Alors cette hypothèse, on peut la tester de manière expérimentale. Ce qu'il va falloir faire, c'est enregistrer une paire de neurones qui est connectée les uns avec les autres, et mesurer le poids synaptique, et ensuite le modifier pour voir si l'apprentissage dépend de l'incertitude. Donc là, par exemple, vous avez une mesure du poids synaptique entre deux neurones au cours du temps. Chaque point ici est une mesure. Première chose, vous constaterez qu'il y a beaucoup de bruit dans ces mesures, mais néanmoins, au cours du temps, la moyenne du poids synaptique tend à être stable. Dans cette expérience qui a été faite d'ailleurs par, je pense avoir la citation, par Soystrom à McGill, il a ensuite déclenché ce qu'on appelle un protocole de potentiation, qui consiste essentiellement à activer le neurone présynaptique et postsynaptique en même temps. Et si vous faites ça pendant plusieurs minutes, vous pouvez déclencher une modification du poids synaptique qui va se maintenir pendant de plusieurs heures. C'est ce qu'on appelle la potentiation à long terme. Donc vous voyez qu'effectivement, nous avons une augmentation du poids synaptique moyen. Et d'après notre prédiction, l'amplitude de ce changement devrait dépendre de l'incertitude de la synapse. Sauf que maintenant, on a un problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de manière directe de mesurer quelle est l'incertitude codée par la synapse. En fait, il va falloir une hypothèse supplémentaire. Et cette hypothèse, c'est la suivante. On va faire l'hypothèse que la variabilité dans la mesure du poids synaptique reflète l'incertitude de la synapse. Plus la synapse est incertaine de son poids, plus elle va varier. C'est une deuxième hypothèse, elle n'est peut-être pas valable, mais si cette hypothèse est correcte, alors l'amplitude de l'apprentissage ici doit dépendre de cette variabilité. C'est une hypothèse qui est valable que dans l'idée que les neurones en fait échantillonnent la distribution de probabilité qu'elles codent. Alors on a commencé à analyser des données qui viennent du laboratoire, donc comme je vous l'ai mentionné, de Soystrom, qui montrent qu'effectivement, il semble que ça soit le cas. Le changement synaptique déclenché par ce protocole de potentiation est effectivement proportionnel à la variance. Ceci dit, je tiens à être très clair sur ces résultats, ils sont absolument totalement préliminaires. Ce sont des données expérimentales qui avaient été faites pour tester des hypothèses complètement différentes des nôtres, et toutes les données que nous avons à notre disposition de ce laboratoire ne sont pas encore cohérentes avec notre cadre théorique, pour des raisons qui sont purement de la manière dont l'expérience a été faite. Et donc aujourd'hui, on est en train de parler des laboratoires expérimentaux pour savoir si on ne pourrait pas refaire l'expérience pour tester beaucoup plus spécifiquement notre hypothèse. Tout en insistant sur le fait que nous avons deux hypothèses, donc même si par exemple l'incertitude de la synapse n'est pas reflétée par cette variance, il y a d'autres manières d'approcher le problème et d'autres types de prédictions que nous pouvons faire. Alors jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de mécanismes d'inférence statistique dans des réseaux corticaux, que ce soit chez l'humain, chez le singe ou chez la souris. Mais quand vous regardez le type d'opérations que nous avons vues, elles sont très simples. C'est des produits de distribution de probabilité ou des sommes d'activités neuronales ou dans le pire des cas, des combinaisons linéaires d'activités neuronales, donc des sommes pondérées. C'est tellement simple qu'on pourrait imaginer que n'importe quel réseau de neurones puisse implémenter ces opérations. Ce qui nous conduit à l'idée que tous les êtres vivants dotés de systèmes nerveux sont peut-être capables de faire ce type d'inférence. À commencer par les insectes, et peut-être même les fourmis, comme la fourmi du désert qui est représentée ici. La fourmi du désert, c'est un animal qui est assez remarquable, qui a des capacités de navigation exceptionnelle. Quand elle sort de sa fourmilière, qui est en général juste un trou dans le désert, elle suit d'abord des trajectoires aléatoires à la recherche de nourriture. Et quand elle trouve de la nourriture, vous pourriez penser qu'elle va retracer ses pas en suivant par exemple des indices olfactifs qu'elle aurait pu laisser derrière elle pour rentrer vers la fourmilière. Mais le problème pour ces fourmis, c'est qu'elles sont en plein désert, elles se dessèchent à toute vitesse, et donc pour elles, il faut rentrer le plus vite possible à l'abri. Et effectivement, c'est ce qu'elles font. Elles rentrent en ligne droite directement vers la fourmilière. Donc elles savent exactement où est-ce qu'elles se situent par rapport à la fourmilière à tout moment. Et ce comportement est illustré ici dans cette vidéo. Vous voyez effectivement comment cette fourmi se dirige en ligne droite directement vers sa fourmilière, entraînant un énorme morceau de pain, et tout ça en marche arrière. Alors, l'année dernière, le groupe de Webb au Royaume-Uni a fait un ensemble d'expériences qui montrent que cette capacité de navigation s'appuie sur les capacités de la fourmi à intégrer différentes sources d'informations qui l'informent sur sa position par rapport à la fourmilière. Et ce processus d'intégration, il est en tout point similaire au processus d'intégration visio-vestibulaire que nous avons vu chez l'humain ou chez le singe. C'est exactement les mêmes équations. Donc ce que ça nous montre, c'est qu'effectivement la fourmi représente sa position dans l'espace sous la forme d'une distribution de probabilité et qu'elle utilise l'inférence statistique pour mettre à jour cette distribution de probabilité. Donc exactement le même système que sur Google Maps dans votre iPhone. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et là, je préfère vous prévenir, je suis dans la spéculation totale. Mais c'est des opérations tellement simples qu'après tout, on pourrait imaginer que même des organismes qui n'ont pas de système nerveux soient capables d'implémenter ces inférences, à commencer par les plantes. Alors évidemment, avec les plantes, on se dit tout de suite, mais les plantes, ça ne fait pas de calcul, ça ne prend pas de décision. Mais quand on y réfléchit, on s'aperçoit assez vite que si, les plantes font des décisions, elles prennent des décisions. Par exemple, pour les plantes à fleurs, la décision fondamentale, c'est la date de floraison. Si la fleur apparaît trop tard, la plante prend le risque d'avoir des graines ou des fruits qui n'arriveront pas à maturité. Si ça arrive trop tôt, elle s'expose au gel. Et ça, c'est une photo qui a été prise il y a un mois et demi à Genève, où effectivement, le vignoble a été victime d'un énorme coup de gel qui a dévasté le vignoble genevois. Alors vous allez me dire, c'est juste du vin genevois, mais même le Bourgogne a été touché, c'est quand même nettement plus sérieux. Donc, c'est des décisions absolument fondamentales pour la vigne. Et cette décision, elle peut s'appuyer sur, une fois de plus, différentes sources d'informations. D'abord, la durée des jours. Plus on s'approche de l'été, plus les jours augmentent. Mais aussi les températures, c'est-à-dire les températures moyennes sur la dernière semaine ou les deux dernières semaines. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux indices ont des fiabilités différentes selon l'endroit où vous vous trouvez sur la planète. À Bordeaux, climat tempéré, les températures sont relativement stables. Donc quand il fait plus de 20 degrés pendant deux semaines, vous êtes à peu près garanti que vous n'allez pas avoir un coup de gel. Par contre, si vous êtes au milieu de la Sibérie, à Novosibirsk, ce n'est pas parce qu'il a fait 20 degrés pendant deux semaines que vous n'allez pas avoir un énorme coup de gel. Donc si les plantes sont probabilistes, elles devraient prendre en compte la fiabilité de ces indices. À Bordeaux, la décision, le jour de floraison devrait être déterminée de manière à peu près égale par la durée des jours et les températures, alors qu'en Sibérie, c'est essentiellement la durée des jours qui devrait déterminer le jour de floraison. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer des données qui confirmeraient cette hypothèse. Je suis en fait en train de négocier avec deux laboratoires de physiologie des plantes pour savoir si effectivement il y aurait des données qui permettraient de nous informer sur ce problème. Mais je pense que c'est une direction particulièrement intéressante pour repenser la manière dont les plantes se comportent, calculent et peut-être même font des inférences statistiques. Alors on en est aux plantes, mais pourquoi pas aller jusqu'au bout du raisonnement ? Après tout, chaque cellule est peut-être un ordinateur probabiliste. Ça, ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Colliot, Bessière et Droulez. Je vois que Pierre est d'ailleurs ici. Jacques Droulez, vous le connaissez sans doute, il était ici au collège pendant... Eh bien, il est ici aussi. J'ai bien fait de vous citer. Et donc, Pierre et Jacques ont poussé l'idée jusqu'au bout en disant que peut-être le métabolisme d'une cellule est une forme d'inférence statistique. Alors, autant que je sache, les preuves expérimentales ne sont pas encore là. Je vois ça comme une hypothèse extrêmement intéressante. Mais ça va être vraiment, je pense que la clé de cette hypothèse, ça va être de démontrer que l'incertitude est codée au niveau des chaînes métaboliques et qu'en modifiant l'incertitude, on peut modifier les calculs qui sont faits. Alors j'imagine que certains d'entre vous sont un peu confus sur le thème de ma conférence. Vous êtes venu ici en pensant que vous alliez écouter une conférence sur une théorie générale du fonctionnement du cerveau. Et je suis en train de vous dire que cette théorie s'applique en fait tout aussi bien aux insectes qu'aux plantes et qu'aux cellules isolées. Alors je pense que ce parallèle est particulièrement intéressant parce qu'effectivement l'inférence statistique c'est peut-être un cadre mathématique général pour comprendre les systèmes vivants. Mais il faut bien comprendre qu'avec un cerveau de 70 milliards de neurones, ce qui est à peu près le cas pour un cerveau humain, on va pouvoir implémenter des inférences statistiques autrement plus compliquées que les inférences qu'on va retrouver chez les plantes ou chez une cellule. De même que les capacités d'adaptation et d'apprentissage du cerveau sont sans commune mesure avec celles qu'on va retrouver chez les plantes ou une seule cellule. Maintenant, vous vous interrogez peut-être de savoir pourquoi est-ce que j'ai présenté des inférences aussi simples. Ça, la réponse est elle-même très simple, c'est que nous en sommes au tout début de cette recherche. Nous sommes vraiment à l'aube de cette recherche. Ça fait une dizaine d'années que nous commençons à explorer ces mécanismes. Et donc, tout naturellement, nous avons commencé avec les inférences les plus simples. Mais dans les années qui viennent, nous allons devoir nous pencher dans des inférences beaucoup plus complexes. Et en sciences cognitives en particulier, plusieurs auteurs ont commencé à explorer, en tout cas, les bases comportementales de ces inférences. Par exemple, dans le cadre de la physique intuitive. Et là, je fais référence à une expérience qui a été faite par le groupe de Josh Tenenbaum, dans lequel ils ont étudié les capacités des sujets humains à comprendre les lois de la physique de manière intuitive. Dans leur expérience, les sujets voyaient des tables comme celle-ci, et leur tâche, c'était de déterminer quel est le bloc qui est le plus à même de tomber par terre si je secoue la table. Et ils sont aperçus, en fait, ils ont reporté deux résultats fondamentaux. Le premier, c'est que les sujets humains sont extrêmement bons à ce genre de tâche. Ils sont aussi performants que pratiquement n'importe quel système que vous pouvez mettre au point sur un ordinateur pour ce genre de tâches. Deuxièmement, leur performance semble cohérente avec l'idée que les sujets humains font tourner dans leur cerveau une simulation de cette table, une simulation avec la table, les blocs et les lois approximatives de la physique. Et cette simulation, elle est fondamentalement probabiliste. Le but de cette simulation, c'est d'essayer de calculer la probabilité de la trajectoire de ces blocs quand on secoue la table. Donc là, on parle d'inférences nettement plus compliquées que celles dont on a parlé jusqu'à maintenant, pour lesquelles, bien entendu, nous ne connaissons absolument pas les bases neurales. Et pour moi, le grand défi des 20-30 prochaines années, ça va être précisément de comprendre les bases neurales de ce type d'inférences. Et pour terminer, je voudrais remercier tous mes collaborateurs. Ils sont assez nombreux, donc je ne vais pas tous les citer. Mais j'aimerais au moins mentionner deux d'entre eux, Jeff Beck et Peter Latham, qui ont joué un rôle absolument fondamental dans le développement de toutes les théories que je vous ai présentées. Merci de votre attention.